Je voudrais d'abord remercier beaucoup Antoine Grandjean pour l'invitation. Oui, et pour les collègues de l'Université de Nantes. Bon, je dois commencer pour m'excuser pour mes fautes de français et ma prononciation. Et en plus, je n'ai plus eu le temps pour demander une révision de mon texte. Et en plus, je me promenais à Rennes. Je suis tombé, j'ai perdu une quantité énorme d'idées au sol. Bon, le thème que j'ai proposé, c'est comme Antoine a dit, l'architectonique de la philosophie pratique kantienne. Comme c'est un thème trop grand, j'ai écrit un schéma, comme tous les schémas sont faux, non? Mais peut-être on peut les corriger pendant la discussion. Bon, je prépare. Après parler rapidement sur la question de la démarche systématique, je traiterai de la question du, disons, degré de pureté transcendantale des œuvres pratiques, et ensuite de l'application du principe pratique. Je ferai aussi une comparaison rapide du système pratique avec le système théorique. Bon. Pour commencer, une remarque préliminaire sur la démarche kantienne. La démarche kantienne est systématique dans un sens qu'il faut préciser. La démarche a des moments systématiques et d'autres aporétiques. Et Kant construit des passages. C'est très intéressant que, aussi, je parlerai beaucoup des passages. Et à la fin, j'espère qu'on peut faire le passage des passages du texte. Bon. C'est dommage que j'ai vu que j'ai oublié un élément de la biographie. Je vais citer un texte de Gerhard Lehmann, qui était l'éducteur de la grande édition de l'Académie, hein, après Heidegger et avant Brandt et Stark. Hein. Gerhard Lehmann a un article très intéressant qui est « Das philosophische Grundproblem in Kant nach das Werk ». Et Lehmann est intéressant parce que comme il a édité l'édition de l'Académie, il a eu une grande expérience avec les manuscrits de Kant. Il a une réflexion sur la démarche de l'écriture kantienne. Bon, Gerhard Lehmann attire l'attention sur cette démarche de la réflexion kantienne lorsqu'il rappelle que, je cite, les concepts de Übergang, les concepts de passage, joue un rôle dans tous les écrits systématiques de Kant. Que l'on pense à la doctrine du schématisme et à la critique de la faculté de juger, que les problèmes du Übergang apparaissent toujours lorsqu'un nouveau plan de considération est atteint. La pensée de Kant a un rythme à elle. Lors d'une première phase, ce rythme est constructif, d'une deuxième, réflexif. C'est corrigeant les erreurs de construction, enfermant les fentes, Lücken, en redressant les contradictions, d'où apparaissent alors de nouvelles approches constructives qui de même seront à leur tour élaborées. Fin de citation. Le texte de Lehmann, qui a été cité, nous met devant quelques questions très importantes. La première, être mise en relief, c'est celle du rythme propre à la pensée kantienne.
Du rythme.
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 Rythme. Rythme. Ah bon. Le rythme propre à la pensée kantienne, marqué par des phases constructives et des phases réflexives. Et dans d'autres textes, passé à quoi Lehm se réfère comme un moment systématique et un moment aporétique. Le système ne s'ensuit pas automatiquement de la réponse donnée à la question transcendantale, comme si les moments étaient des simples escolis de l'établissement des distinctions critiques fondamentales. Le système kantien doit être entendu non comme donné une fois pour toutes, mais comme un processus de formation où les lacunes surgissent et sont dépassées, où se posent des problèmes imprévus, où l'on parvient même à proposer de nouveaux principes. Bon, il y a quelques éléments qui sont faciles à voir. La troisième critique n'est pas prévue dans la première. Mais ce n'est pas seulement ça. Nous avons toute dans l'architectonique pratique des solutions imprévues. Nous venons de voir le passage du beau et du sublime à la morale. Ça, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu dans la critique de la raison pratique. C'est ça que Lehmann se réfère. Il y a toute une dynamique de la formation de la personne, de la pensée kantienne qui forme des problèmes. C'est ça qu'il appelle le systématique et la poétique. Le propre système crée des problèmes qu'il résout d'une certaine façon. Dans ce sens que je cherche l'architectonique pratique, de voir comment fonctionne cette dynamique de la pensée kantienne. Bon. Dans la préface de la critique de la raison pratique, Kant souligne les rapports de cette œuvre avec les fondements de la métaphysique de mœurs et avec la métaphysique des mœurs dont l'écriture reste à faire. Kant y affirme que le système dans sa partie concernant la critique de la raison pratique présuppose, sans doute, je cite la critique de la raison pratique, présuppose sans doute les fondements de la métaphysique des mœurs, mais seulement dans la mesure où ceux-ci nous font faire provisoirement connaissance avec le principe du devoir, en indiquant une formule déterminée et la justifiant. Pour le reste, il ne repose que sur lui-même. Que la division de toutes les sciences pratiques n'est pas ici été ajoutée pour atteindre à l'achèvement complet, suivant l'exemple donné par la critique de la raison spéculative, se justifie déjà suffisamment par la nature de ses pouvoirs pratiques de la raison. Car la détermination spéciale des devoirs comme devoirs humains en vue de leur division, n'est possible que si auparavant le sujet de cette détermination, l'homme, ait été connu tel qu'il existe réellement, ne serait-ce que dans la mesure où cela est nécessaire par rapport au devoir général. Or, cette détermination n'est pas du ressort d'une unique critique de la raison pratique en général, qui doit seulement indiquer de manière complète les principes de sa possibilité, de son étendue et de ses limites, sans référence spéciale à la nature humaine. La division révèle donc ici du système de la science et non du système de la critique. Fin de citation. Bon. Nous avons un autre problème, une différence entre système de la science et un système de la critique. Bon. Le fondement de la métaphysique des mœurs et la deuxième critique se trouverait dans le champ de la critique et non dans celui de la science, de la métaphysique. La différence entre les deux réside en ce que la première se serait concentrée sur la formulation de l'impératif catégorique, sur la formule de la moralité. Mais, déjà dans les fondements de la métaphysique des mœurs, avant d'écrire la deuxième critique, Kant attire l'attention au caractère plus large de l'œuvre future, car, je cite la fondamentation de la métaphysique des mœurs, pour que la critique d'une raison pure, pratique, puisse être achevée, je crois indispensable que l'on se mette à même démontrer en même temps l'unité de la raison pratique et de la raison spéculative dans un principe commun. Car, en fin de compte, il ne peut pouvoir y avoir qu'une seule et même raison qui ne doit souffrir des distinctions que dans ses applications. Bon. Il y a une différence des fondements et de la critique des raisons pratiques. Et, c'est un problème important, il y a des différences dans l'application. Bon, nous avons les problèmes du système, système critique, système de la science, et les problèmes de l'application. Dans la critique de la raison pratique, l'affirmation de la primauté de la raison pratique et toute la dialectique de la raison pure pratique, avec la reprise des idées de la raison, réalise une partie du programme de démonstration de l'unité de la raison. La postulation des idées, outre son importance dans les rapports avec la première critique, sera importante, comme nous le verrons bientôt, pour l'application de la loi morale. Par ailleurs, Kant distingue clairement le système de la critique et le système de la science. Le système de la critique n'embrasserait pas toute la question pratique. Il ne saurait non plus mener aux dernières instances la division des devoirs. Il ne peut qu'avancer les principes de la possibilité de leur détermination. Différemment de la raison spéculative, celle que peut présenter dans la critique de la raison pure, la division de la science, mathématiques, sciences naturelles et métaphysiques, la raison pratique ne peut, de par sa propre nature, en faire de même. Nous avons une différence entre les systèmes de la connaissance et le système pratique. La division est claire déjà dans la première critique, mathématiques, sciences naturelles et métaphysiques. La raison pratique ne peut pas faire cette division complète initialement. Afin de pouvoir présenter la division des sciences pratiques, doctrine du droit et doctrine de vertu, elle aurait à prendre en compte la nature humaine et déterminer les devoirs moraux comme humains. De cette façon, nous nous voyons d'emblée en face du problème de déterminer de chacun des écrits patriques de Kant, nous pouvons dire, son degré de purité transcendantale. En prenant compte de l'ensemble de l'œuvre, Lewis Whitebeck, dans le A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason, Beck cherche à établir 5 niveaux de purité dans les plans de la philosophie morale kantienne, en dépit de trouver que Kant n'est pas très explicite ni consistant en sa référence à cette question. Nous pouvons prendre Beck seulement comme point de départ. Il rencontre alors 5 niveaux de purité. Premier, philosophie morale indépendante de la nature particulière de la raison humaine et dépendant seulement du fait de la pure raison, lequel n'est pas un fait empirique. C'est une métaphysique de la morale telle qu'elle est considérée dans les fondements de la métaphysique de mœurs. Les fondements de la métaphysique de mœurs a une très grande, disons, purité transcendantale. Les fondements avoir une relation avec les humains ou avec les anges ou avec les êtres des autres planètes. Kant aimait beaucoup les êtres des autres planètes. Bon. La morale rationnelle pourra aussi valoir pour les étés. Bon, ça c'est le premier niveau de pureté transcendantale. Le deuxième, la philosophie morale dépendante du niveau premier et des 3 définitions dégagées de la psychologie. Ça c'est bon, on laisse. Je réfère à l'argument de Beck. Celle qui donne le fondement au concept d'impératif, respect et devoir. Il met dans ce niveau la critique de la raison pratique. 3 niveaux. Philosophie morale comme le développement systématique des principes dans le niveau 2, dans la critique de la raison pratique, indépendante de la nature humaine, mais applicable à celle-ci dans la variété de ses formes connues empiriquement. Une métaphysique demeure dans les livres qui portent ce titre. Ce serait le 3e niveau. 4e, système de la philosophie pratique, système de la science, comme l'exposition systématique de la métaphysique de mœurs, conjointement aux faits historiques, mentionnés à plusieurs reprises, mais n'ayant été jamais écrits. On trouve, Kant a parlé pendant plusieurs années qu'il devait écrire, et chaque fois qu'il décrit l'œuvre qu'il va écrire, il constitue d'une manière très différente de l'autre. Bon, Dans ce quatrième niveau, on ne trouve rien. Et finalement, le cinquième niveau, l'anthropologie morale et pragmatique. Une élaboration épisodique des règles pratiques qu'on trouve dans les leçons d'éthique et dans l'anthropologie. Bon. Alors, nous avons différents degrés de pureté transcendantale. Cependant, Beck relative lui-même la distinction des niveaux et même la séparation entre critique et système. Il croit que l'ouvrage Métaphysique de mœurs contiendrait tant d'éléments empiriques et historiques qu'elle serait plus adéquatement située sur le plan 4 que sur le plan 3, tandis que seulement la critique de la raison pratique serait une métaphysique de la morale, avec des connaissances a priori, il ajoute, si en fait elle l'est. Même la critique de la raison pure, on peut trouver des éléments empiriques. L'analyse de Beck peut servir de point de départ à la discussion de plusieurs niveaux de pureté des œuvres et offrir des indications sur les plusieurs plans d'application des principes. Mais on peut avancer qu'il s'agit d'un schéma très pauvre pour rendre compte du système pratique kantien. L'architectonique de la philosophie pratique kantienne aura à prendre en compte aussi la religion, la philosophie de l'histoire, la politique et même la dimension éthique présente dans plusieurs moments de la critique de la faculté de juger, comme nous avons venu de voir. Et ça, bon, n'entre pas dans l'analyse de Beck. Elle est très pauvre dans ce côté-là. De toute façon, si la formulation initiale de notre problème se pose sous le terme des décrets de pureté transcendantale de plusieurs textes kantiens, alors les fondements de métaphysique des mœurs semblent être les meilleurs points de départ pour faire l'approche de la question. Quant au niveau de pureté, pattern, in the categorical imperative, pattern présente une position différente de celle de Beck. Lorsqu'il écrit, je cite, « À parler strictement, les fondements de la métaphysique des mœurs et la critique de la raison pratique appartiennent à l'éthique pure, même si l'on doit éventuellement apporter des problèmes de l'éthique appliquée sous les titres d'illustration. » On doit séparer clairement qu'est-ce que ce sont les exemples et qu'est-ce que c'est la fondamentation proprement critique de la moralité. La question de l'éthique appliquée surgit comme des exemples, mais non la question de la possibilité de l'application. Question importante dans la structure complexe des textes qui exige leur transition. Mais, si nous supposons que la restriction des patterns est correcte, alors il est stratégique de commencer, par exemple, de la notion d'impératif catégorique. Les interprètes de Kant divergent quant au nombre de formulations de l'impératif catégorique présent dans les fondements. Je prends Patton parce qu'il a trouvé, je crois, le plus grand nombre. Patton trouve 5. Premier, la formule de la loi universelle. 2. Formule de la loi de la nature. 3. Formule de la fin en elle-même. 4. Formule de l'autonomie. Et 5. Formule du royaume de fin. La formule 2 sera une variante de 1, la cinquième une variante de 4. Bon. L'important, ce n'est pas ça. Il n'est pas le cas d'entrer dans cette discussion sur le numéro et l'articulation des formulations de l'impératif. Nous avons ici l'intérêt de savoir les motifs de cette pluralité. Kant est très clair à ses propos. Je cite le fondement de la métaphysique des mœurs. Il y a cependant entre elles, entre les formules de l'impératif, une différence qui, à vrai dire, est plutôt subjectivement qu'objectivement pratique. Et dont le but est de rapprocher, selon une certaine analogie, une idée de la raison de l'intuition, un chang, et par là, du sentiment. Bon, nous avons le problème de l'application déjà dans les plusieurs formulations. Quand il dit clairement qu'il y a une différence, c'est plutôt subjectivement qu'objectivement pratique, et dont le but est de rapprocher une idée de la raison de l'intuition, et par là, du sentiment. Il y a une Versicherung ici, dans les plusieurs formulations de l'impératif. Et un peu plus loin, je cite, « Pourtant, si l'on vient en même temps ménager à la loi morale l'accès des âmes, il est très utile de faire passer la même nation par les trois concepts indiqués. Il est rapproché par là, autant que possible, de l'intuition. » C'est une autre formulation de ce qu'il a dit. L'approximation du sentiment de l'intuition ne rend plus facile. Excusez-moi. L'approximation du sentiment de l'intuition en rend plus facile l'application. Il en est ainsi de la possibilité de l'application qui est mise en relief dans la diversité des formulations de la même loi morale. Bon, c'est ça, c'est la même idée. La pluralité des formulations, c'est pour approcher de l'intuition. Bon. Par ailleurs, le fait que les fondements aient de la valeur pour n'importe quel être raisonnable, indépendamment des particularités de la raison de la nature humaine, ne signifie pas qu'elle soit fondée sur un formalisme vide. Je n'ai pas le temps de travailler ça, mais je peux envoyer l'excellent livre de Kaulbach, Immanuel Kant, Seconde Legung zur Metaphysik des Sitten, où il essaie d'essayer, nous n'avons pas le temps, je saute, il montre comme il y a un système de passage aussi dans les trois parties de la fondamentation. Et le point de départ, c'est la conscience morale commune. Alors, si le point de départ est la conscience morale commune, nous avons... n'a aucun sens de parler d'un formalisme vide. Je saute cette partie. Mais cette analyse de Kaulbach, c'est intéressant parce qu'en même temps, il analyse la notion interne du Übergang dans les trois parties et il insiste dans cet ancrage de la morale kantienne, dans la raison commune. Bon. Le preuve de la pensée, même si elle vaut pour tout être raisonnable, et si elle ne part pas de la particularité de la nature humaine, concerne les hommes et plus que cela. La loi morale n'apparaît qu'en tant qu'obligation et impératif pour la rationalité limitée. Bien sûr, pour un être parfait, la moralité n'apparaît pas comme impératif. La notion d'impératif, c'est lié à la notion de la finitude. Même si l'horizon de la finitude n'entre pas dans la réalité de la détermination de la nature humaine, elle est présente de manière décisive dans l'œuvre. Alors, dans ce schéma, je parle du fondement de la métaphysique d'abord, pour tous ces motifs. On peut passer à la critique de la raison pratique. Comme j'ai dit, l'exigence de la critique de la raison pratique, que j'ai déjà annoncée dans le fondement, est qu'elle doit montrer la relation avec la critique de la raison pure. Il faut que la critique de la raison pratique, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, accomplissent une tâche plus large que celle des fondements de métaphysique de mer. Car, outre la présentation du principe de la moralité, il lui faut rendre compte de son rapport avec la critique de la raison pure et indiquer la possibilité de réalisation de la moralité. La question surgit en toute force dans les concepts de souverain bien, c'est-à-dire dans les rapports de la vertu et du bonheur. Ces concepts concernent donc l'étendue elle-même de la raison pure. En fonction du souverain bien, il est nécessaire de postuler l'immortalité de l'âme. En fonction du rapport de la durée avec la pleine réalisation de la loi morale, il est nécessaire de postuler la liberté pour affirmer l'indépendance nécessaire par rapport à la détermination sensible et la possibilité de détermination de la volonté par une loi d'un monde intelligible. Il est finalement nécessaire de postuler l'existence de Dieu par la, je cite, par la nécessité de la condition requise pour qu'un tel monde intelligible soit le souverain bien, par l'hypothèse du souverain bien autonome, c'est-à-dire l'existence de Dieu. Fin de citation. Bon. Sans s'adresser contre les limites imposées par la première critique, on postule sur le plan pratique ce qui n'était pas possible d'affirmer sur le plan spéculatif. Les idées de Dieu et d'immortalité ne sont pas les conditions de la loi morale. Oui, dans les fondements de Melchizedek, nous avons la condition de la loi morale sans ces concepts-là. Hein? Bon. Donc, les idées de Dieu et d'immortalité ne sont pas les conditions de la loi morale, laquelle est établie dans les fondements indépendamment de ces idées. Je cite la critique. Toutefois, elles sont les conditions de l'application de la volonté moralement déterminée à l'objet qui lui est donné a priori. Bon, nous avons dans la critique une autre condition de l'application de la loi morale. Nous avons en même temps les problèmes de l'application, les problèmes de la Versicherung. Nous avons toute une structure qui s'affirme. Bon, les concepts de souverain bien et les postulats de la raison sont fondamentaux pour que l'on en pense l'application, la réalisation de la loi morale. Et c'est ici que se rendent claires les limitations de l'approche de Beck, dont nous sommes partis. Il ne suffit pas d'établir seulement le degré de pureté des œuvres de la philosophie morale pour rendre compte de l'architectonique de la philosophie pratique ancienne. En premier lieu, parce que les idées de la raison seront affirmées dans la pratique d'une manière qui était interdite par la raison spéculative. Outre cela, les points de vue pratiques introduisent la notion d'intérêt, ce qui résulte dans le fait que l'unité de la raison soit pensée à partir de la primauté de la raison pratique. Enfin, l'articulation entre les deux œuvres reçoit encore une nouvelle et décisive détermination avec la critique de la faculté de juger, laquelle il nous faut alors prendre en considération. Et ma tâche a été facilitée énormément pour la conférence antérieure. Bon, ces limites atteintes, donc, on peut mettre en toute sa force la question systématique. Et comme nous l'avons déjà vu, un point de départ intéressant est d'explorer les ressemblances et les différences entre le premier principe métaphysique de la science de la nature et les premiers principes de la métaphysique de mœurs. C'est la même chose. Sont métaphysischen Anfangsgründe de science et métaphysischen Anfangsgründe de mœurs. On peut comparer les deux. Il est intéressant de remarquer d'abord la transition, l'Übergang, du système de la critique vers le système de la métaphysique. Ce qui signifie, dans les termes de notre discussion jusqu'ici, que nous pouvons ajouter un minimum d'empiricité sans que les caractères métaphysiques ne soient compromis. Or, si on pense à la métaphysique de la science de la nature, je cite le métaphysique Jean van Gundt, dans toute Wissenschaft. Or, et quant à la détermination fondamentale d'une chose qui doit être objet du sens externe, il fallait que ce fût le mouvement, car c'est par les mouvements seuls que ces sens peuvent être affectés. Bon, qu'est-ce que c'est un élément de passage hein, de la critique de la raison pure à la métaphysique? On doit prendre un élément empirique, c'est le mouvement. Un mobile dans l'espace est le minimum que l'on adjoint à l'écriture catégorielle, c'est une donnée tellement abstraite qui ne compromet pas les caractères métaphysiques. Au contraire, la métaphysique ancienne, c'est ça, non? Les nouveaux sens des métaphysiques. Non? Bon. Cette simple adjonction qui se peut effectuer a priori, et donc, répétons-le, peut-être, en ce sens métaphysique, puisque j'essaie a priori de l'objet donné, quel qu'il puisse être, qu'il est situé dans l'espace et dans le temps, à quoi correspond la notion de mouvement, permettra ensuite d'en déterminer les produits à l'aide des quatre titres de la table des catégories, en faisant surgir la phoronomie, quantité, la dynamique, qualité, la mécanique, la relation, et la phénoménologie, la modalité. Il est possible de rapporter, comme le fait Jules Wiemann, dans les classiques physique et métaphysique anciennes, qui c'est ancien, 53, 55, mais il continue à être le meilleur livre que j'ai lu dans toutes les langues sur cette relation, non? Parce qu'il montre les fils conducteurs de la logique formelle, la table des catégories, les principes, les principes métaphysiques, non? Il montre comme ça marche bien, et la mécanique newtonienne relationnée avec la critique de raison pure. Non? Bon, il est possible de rapporter, comme le fait Jules Wiemann, point par point la table des catégories, la table des principes et les parties de premiers principes métaphysiques de la science de la nature. L'articulation de la métaphysique de la nature avec la critique de la raison pure est bien étroite et ce n'est qu'ultérieurement que Kant percevra la nécessité d'un passage de ce premier principe métaphysique à la physique empirique. La dernière œuvre de Kant, l'Opus Postumum, était Kant essayait de faire le passage du principe métaphysique de la nature à la physique empirique. Il a regardé qu'il faudrait un passage. C'est ça que j'insiste. Tout le temps, le système de Kant, il trouve plus de problèmes. Il y a des apories, il veut faire un effort pour résoudre le problème. Non? Les principes métaphysiques de la science n'est pas plus suffisant pour Kant. Il faut trouver un passage. Toute la théorie de l'éther, etc., c'est une tentative non, pour faire le passage. Bon, ce que je voudrais faire est montrer que dans le système pratique, il y a quelque chose de semblable. Tout le temps, quand tu vas rechercher de nouveaux passages non, dans ces mouvements pratiques. Tu peux 5 minutes.
10 minutes.
10 minutes, ok. Bon. Ça, c'est mon objectif, non? Faire une comparaison rapide entre les deux schémas, et toujours il y a un système de passage. Non? Et comme le système de passage, la physique, ne s'est pas complet, peut-être le pratique aussi. Non? Mais les pratiques, c'est beaucoup plus compliqué que le système de la nature. Parce que le système de la nature est structuré par les catégories sans problème. Nous n'avons pas. Il y a seulement une métaphysique de la nature. Nous avons deux parties de la métaphysique de mœurs. Et donc, le système pratique est beaucoup plus compliqué. Bon. Dans la construction, bon. alors maintenant, j'essaie de synthétiser. Bon, dans la construction du contenu de la loi, on introduit un élément empirique minimum. Il s'agit d'abord de l'existence de quelque chose extérieur à la raison. L'existence des choses et des autres est raisonnable des personnes. Par exemple, pour avoir les droits, nous avons, dans la métaphysique du droit, on doit avoir un élément empirique. Pour avoir la propriété, on doit avoir des objets extérieurs. Pour faire un contrat, il est nécessaire d'une relation de deux personnes. Donc, on a des éléments empiriques. Comme dans la science, on avait les mouvements, au cas du droit, nous devons avoir l'existence d'un objet quelconque qu'on peut s'approprier. Et pour faire les contrats, il faut avoir des gens, des personnes pour faire le contrat. Bon. Il s'agit du rapport d'autonomie avec ces éléments existants et non celui de la donnée empirique avec cette diversité infinie. De cette manière, on garde les caractéristiques des déterminations apriористiques propres à la métaphysique, dans ce cas-ci, les premiers principes métaphysiques du droit. Il ne s'agit pas des éléments empiriques en leur particularité, mais plutôt de la liberté concernant la propriété et la relation des autres personnes. Bon. L'autonomie est déterminée dans son rapport avec l'extériorité et la propriété dans les droits privés et les êtres raisonnables dans son rapport politique avec les droits publics. Bon, on passe métaphysique de mère avec droit, vertu. Elle est départue de la métaphysique du de mère. Bon. Premier, c'est les droits. Il y a cet élément empirique de la possibilité d'appropriation et la possibilité de contrats entre les personnes. En deuxième pas, sera donné par la doctrine de la vertu. Comme nous l'avons déjà vu, les droits restent seulement dans les niveaux formels de l'accord de la liberté extérieure avec elle-même. Je cite la doctrine de la vertu. L'éthique, en revanche, fournit en outre une matière, un objet du libre-arbitre, une fin de la raison pure, qui est représentée en même temps comme fin objectivement nécessaire, c'est-à-dire comme devoir pour les hommes. En effet, puisque les penchants sensibles entraînent vers des fins en tant que matière de l'arbitre, qui peuvent être contraires au devoir, la raison législatrice ne peut résister à leur influence autrement qu'en leur opposant en retour une fin morale, qui doit être donc donnée a priori indépendamment des penchants. Bon, fin de citation. Bon, il devient clair l'adjonction de l'autre élément empirique minimum, la nature humaine et ses penchants. Parce que si on pense à la vertu, l'élément de la vertu compte certains penchants humains, etc. Cet élément empirique minimum est aussi un facteur qui limite la raison, d'où les besoins de ces données des fins a priori, ce qui détermine une grande différence par rapport au droit. Bon. Plus vite encore, il est possible de poursuivre la comparaison avec le plan spéculatif sur un autre aspect, de façon à continuer à fournir l'indication qui est par rapport au droit et la vertu. Il y a des exigences similaires, comme j'ai déjà dit, des passages comme il y a dans le connaissement. La connaissance. Bon, je voudrais lire un passage de l'Opus Postumum qui c'est important pour mon argument. La doctrine du droit pur et la statutaire sont distinctes l'une de l'autre comme le rationnel l'est de l'empirique. Mais, puisque la dernière serait sans la première une œuvre artificielle, purement mécanique, aucunement objective, découlant des lois de la raison, mais seulement subjective, provenant de l'arbitre du pouvoir, et qu'elle ne serait en soi aucun droit, il faut interposer une partie médiatrice de la doctrine du droit en général comme un passage, Übergang, pour la connexion d'une doctrine pure du droit et une statutaire en général. il même fait la comparaison. Comme il y a la nécessité d'un passage du premier principe métaphysique de la nature à la physique empirique, il est nécessaire un passage de la théorie du droit au droit positif, au droit existant dans les sociétés. Ça nous permet de penser, bon, avec le droit, nous avons la société civile, la possibilité de la société des nations, et comment est possible la réalisation du droit. C'est ça qu'ils nous disent dans ce passage de l'Opus Postum. Telle discipline sera très utile pour ordonner et juger les droits positifs. Non? Bon. Un autre passage, une autre citation que je pense que c'est important. Dans la doctrine de la vertu, Kant lui-même avait suggéré clairement l'analogie de la métaphysique de la nature avec la métaphysique de mœurs. Je cite un passage de la vertu. De même que l'on exige un passage, dans ce cas-là, c'est Überschritt. Non? Kant utilise Übergang, quelquefois, d'autres fois Überschritt. De la métaphysique de la nature à la physique, qui a ses règles particulières, de même on exige, à bon droit, de la métaphysique de mœurs, quelque chose d'analogue. C'est clair, non? Bon. Des questions importantes sont présentes dans ce texte. L'une en est la référence à la schématisation. Il va dire que c'est un schéma, c'est un type. Non? Bon, mais je passe cette question. Et il est possible d'explorer ces analogies en ébauchant un rapide schéma du plan de réalisation des principes des deux parties de la métaphysique de mœurs. Pour commencer, il faut que la réalisation des principes du droit soit pensée sur un plan déterminant, mais il doit l'être aussi sur un plan réfléchissant. La loi juridique est déterminante, bien sûr, mais pour penser la réalisation du droit, Kant va utiliser une dimension réfléchissante. Comment? Avec la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire de Kant établit justement les rapports stricts de l'histoire et du droit. À cause de ça que j'ai mis une flèche avec philosophie de l'histoire. Non? L'histoire s'est constituant comme une forme de garantie du droit, si on prend le texte de la paix perpétuelle. Et je cite Bernard Bourgeois, « Le kantisme introduit dans la philosophie de l'histoire, entendu au sens large de l'expression, comme discours réflexif sur le devenir humain, l'équation de l'histoire et du droit. L'histoire est fondamentalement histoire du droit, et par là, de la politique, si celle-ci est appréhendée, se l'écache Kant, comme la réalisation du droit, aux Üben des Rechtslehren. Bon. Dans le kantisme, on a en même temps les critères anhistoriques pour juger les événements et les institutions sur le plan déterminant, l'essence réfléchissant des événements qui se révèle dans la tendance à la réalisation du droit. Le champ de la politique est formé dans les croisements de ces deux plans, un plan historique, un plan déterminant. La politique peut être pensée dans ces deux dimensions. Si la philosophie de l'histoire et la politique ouvrent de nouveaux horizons pour la réalisation du droit, nous pouvons nous demander aussi ce qui se passe par rapport à l'éthique, hein, de l'autre côté, avec la vertu. Ces horizons avaient déjà été ouverts dans un ouvrage antérieur à la doctrine des vertus, c'est-à-dire la religion dans les limites de la simple raison. Dans cet ouvrage, on prend en compte la méchanceté humaine. C'est un autre aspect de l'élément empirique. En opposition à celle-ci, on trouve la conscience de la loi comme idée personnifiée du bon principe. Et on passe de l'individu à la communauté. Il y a une dimension de la vertu, une dimension éthique, qui aussi est communautaire. C'est la notion d'église, chez Kant. Il y a d'un côté du droit la société des nations, de l'autre côté de la vertu, une communauté éthique, une église. Bon. Je saute, pardon. Bon. Un dernier niveau à être considéré, c'est l'anthropologie. Or, la connaissance de l'homme, je cite l'anthropologie, pénètre dans une perspective soit physiologique, soit pragmatique. La connaissance physiologique de l'homme vise à explorer ce que la nature fait de l'homme, et la connaissance pragmatique, c'est que l'homme, être libre de ses actes, fait ou peut et doit faire de lui-même. Disons, dans ce cadre-là, la question de l'application rencontre un dernier élément, et disons, les éléments empiriques sont plus riches encore que dans toutes les autres perspectives. Et ce n'est pas possible de représenter la position de la critique de la faculté de juger. Alors j'ai trouvé une place, je ne sais pas comment. Bon, pour finir, notre dessin dans ce texte n'a été que débaucher, à l'aide de quelques exemples privilégiés, des modèles d'analyse capables de présenter un schéma de l'architectonique de la philosophie ancienne d'un point de vue pratique. Dans le sens de ces résultats encore préliminaires, nous pouvons dire que, chez Kant, la conception complexe de l'action enveloppe plusieurs niveaux et plusieurs plans. Les fondements de la métaphysique demeure valent pour tous les êtres raisonnables et présentent les principes de la moralité. La critique de la raison pratique, avec ses postulats, élargit les camps d'application et ouvre le chemin à la religion. La métaphysique demeure introduit un minimum d'éléments empiriques et elle rend possible l'application de la loi afin de permettre l'action sous ses aspects aussi bien extérieurs dans les droits qu'intérieurs, ce qui signifie prendre en compte l'intention dans l'éthique. Entendre la philosophie de l'histoire comme histoire de conquête et consolidation du droit et la politique comme aux yeux de Hetzler. En plus, prendre la religion dans les limites de la simple raison sous la perspective de la communauté éthique et considérer l'anthropologie d'un point de vue pragmatique comme l'analyse des éléments empiriques de l'homme qui peuvent rendre au plus difficile, au plus facile, son mouvement dans le sens de l'autonomie. Il serait encore possible d'introduire le schéma ébauché, la perspective réfléchissante téléologique dans l'histoire et les passages de la théorie vers la pratique dans la critique du jugement, œuvre qui considère aussi les aspects où les beaux et les sublimes et la fin ultime s'adresse à la moralité. Selon notre façon de voir, il faut que la présentation du schéma de l'architectonique de la philosophie pratique ancienne contemple les plusieurs plans, les plusieurs niveaux de la complexe conception d'action chez Kant. Cela peut être pour imposer les restrictions dues à ce qui a été souvent divulgué comme le vide formalisme kantien. Merci.